Chapitre 42. Vivre à côté de la marmite. Gustave a bien senti qu'après le dessert, les conversations d'adultes n'avaient aucun intérêt pour les deux enfants de la tablée. Il leur propose d'aller poursuivre leur chantier, étant donné la météo clémente. Sébastien s'est intégré au projet avec beaucoup d'intérêt. Ils s'y sont peu rendus en raison de la pluie de ces derniers week-ends, mais ils ont élaboré la suite des plans dans l'atelier à côté de la grange, et une nouvelle tranche de construction est prête. Ce sera plus facile avec deux ouvriers dans les branches. La carriole est chargée au maximum, et Sébastien aide Gustave à pousser dans la montée pour préserver Annanina. Celle-ci revendique pourtant quelques forces, mais elle ne fait pas le poids face à lui, de 3 ans son aîné. La fillette ayant décidé de le couvrir de douceur et de bienveillance, ce garçon aux yeux tristes lui offre en retour beaucoup de prévenance. Il pourrait ne pas savoir, ne pas avoir appris. Mais la petite trimballe et diffuse une gentillesse hautement contagieuse. Avec elle, il sait. Arrivé sous l'arbre, il ne tarde pas à décharger le matériel et à commencer l'assemblage. La nuit tombe de plus en plus tôt et ils n'ont que peu de temps devant eux. Le deuxième palier est plus acrobatique que le premier. Il faut d'abord monter les planches en slalomant entre les branches et être encore plus prudent dans les déplacements. Bientôt, le plancher prend forme, et les deux enfants en font le tour en lançant des signes de la main à Gustave qui les félicite.
« Allez, joue ! Il faut rentrer maintenant. La nuit va tomber, et demain il y a école. Sébastien, tu ne dois pas partir ?»«
Si, bientôt, » répond le garçon en faisant la moue. Il sait ce que cela signifie. Son père lui demandera de faire son sac, puis l'emmènera à la gare. Il prendra le train seul. Avec un peu de chance, quelqu'un l'attendra à Strasbourg, mais comme la plupart du temps, personne ne sera là. Alors il prendra le tram, puis un bus, pour rentrer dans son quartier, retrouver sa maman, heureuse de le revoir, certes, mais très occupée avec ce nouveau bébé, et son beau-père, qui ne lui posera aucune question sur ce qu'il a fait, ni comment il va. L'homme se contentera de lui demander de mettre la table puis de la débarrasser et l'enverra dans sa chambre pour être tranquille avec sa mère.
« Tu crois pas que tu pourrais rester là ?»
lui chuchote Annanina.
« Comment ça, là ?»«
Ben là, à Solbach avec nous. Il y a une chambre libre chez Gustave. Et puis tu pourrais venir à la même école que moi. »
Mais j'ai quand même envie de voir ma maman et ma petite sœur. Et puis, ils ne seraient pas d'accord. C'est pas comme ça que ça marche.
Annanina fouille dans sa poche. Elle y fourre toujours tout ce qu'elle glane dans la nature en se promenant. Aujourd'hui, il y a un caillou rond, un morceau de bois en forme d'Y, une faîne et une vieille racine tordue. Elle choisit le caillou qu'elle dépose dans la main de Sébastien.
« Tiens, c'est pour toi. Tu peux le garder avec toi, et à chaque fois que tu te sens seul, tu le serres fort dans ta main. Ça voudra dire que je pense à toi. »
« Comment tu sauras que je serre le caillou ?»«
Je le saurai. »
Sébastien lui sourit, puis descend le long des branches en vérifiant qu'elle suit sans encombre. Gustave a déjà chargé les outils et entame la montée en s'assurant que les deux enfants font de même. Quand ils rejoignent le chemin, Annanina saisit le bras de Sébastien pour interrompre sa marche, se met sur la pointe des pieds, lui chuchote quelques mots à l'oreille et lui fait ensuite un clin d'œil complice.
« Gustave, aujourd'hui c'est toi qui montes dans la carriole »,
lance-t-elle soudain au vieil homme qui pousse l'engin quelques mètres plus loin, sans avoir vu leur cachotterie.
« C'est pas pour les vieux, ça »
proteste-t-il.
« T'es pas vieux, tu le dis toi-même. Tu ne peux pas être vieux que quand ça t'arrange. Allez, hop !»
Gustave s'exécute avec un enthousiasme mêlé de crainte. La grande descente vers le village, il la connaît. Si les enfants lâchent, il ne s'arrêtera qu'en versant sur le côté. non sans conséquence pour sa hanche ou son épaule. Et à son âge. Mais il est le premier à dire qu'on n'a qu'une vie. En se retournant et en les voyant près, les mains sur les manches, le sourire large, il enjambe l'habitacle en métal et s'assoit au milieu des outils. Le trio repart au pas, pour le préserver, quand les roues passent dans les ornières du chemin. Il s'accroche un peu plus au moment d'aborder la pente, mais les enfants ont à cœur de réussir leur entreprise. Et ils se sont penchés en arrière pour retenir le véhicule de tout leur poids. Ils arrivent dans la cour quelques instants plus tard, alors que les parents de Gaël s'apprêtent à monter dans leur voiture. D'abord étonnés, ils comprennent devant la scène pourquoi leur fils a trouvé refuge ici et s'y sent suffisamment bien pour entreprendre de changer de vie. Il doit se sentir léger rien qu'à les côtoyer. Eric s'est absenté un moment après le repas pour les laisser entre eux. Ils ont longuement parlé cet après-midi de Gaël, de ses décisions, de ses souffrances, de leur cause. Sa mère a pleuré en comprenant que ses angoisses étaient probablement à l'origine de l'obésité de son fils, elle qui l'a rempli depuis tout petit de nourriture et de peurs inconnues. Elle qui continue aujourd'hui, qui n'a jamais entendu quand on lui disait qu'elle en faisait trop. Valentine était là. Elle l'a rassuré. Comprendre qu'on ne maîtrise pas tout, qu'on n'est pas responsable de certains comportements ancrés, de certains héritages lourds de secrets trop bien gardés. Lui faire entendre qu'elle n'a pas à culpabiliser, car elle n'a pas voulu cela. Elle n'a jamais cherché à nuire à son fils, au contraire. Elle a fait ce qu'elle a pu dans le contexte et l'histoire dans lesquels elle a baigné elle-même depuis toujours. Valentine lui a suggéré d'aller elle aussi consulter la femme aux cheveux gris. Celle qui lui a permis de comprendre que ce qui l'empêchait de s'engager dans le présent avec un homme venait de son passé. De cette grand-mère qui pendant la guerre avait failli mourir sous la torture, étouffée dans un seau, par amour pour son Léon. Cette femme aux cheveux gris qui a permis à Gaël de comprendre qu'il ne mourrait pas en mangeant simplement à sa faim. Monique a promis qu'elle prendrait en charge l'opération esthétique, quand il en sera question, pour enlever l'excès de peau laissé par l'amaigrissement et qui encombrera son fils comme un poids mort, comme le souvenir d'un passé dont il ne veut plus, sa façon à elle de participer, de faire sa part dans la réparation. Elle ne sait pas, pour la femme aux cheveux gris, c'est difficile de soulever des couvercles quand on sait qu'il faudra remuer. Il est tellement plus confortable de vivre à côté de la marmite, en la laissant doucement mijoter sans s'en préoccuper. Mais elle va réfléchir.